On compte bien évidemment sur votre présence et sur votre fidélité.
Le 6 janvier 2025, France Bleu devient ici, plus que jamais connecté à notre région. Ici, le nouveau nom de votre radio locale, J-18.
Jeudi 19 décembre, bon réveil, ici sur France Bleu, 5h. Le journal, Nicolas Sarkozy va saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
L'ancien président continue de clamer son innocence, mais le voilà définitivement condamné dans l'affaire des écoutes, condamné à porter un bracelet électronique pendant un an. Comment ça se passe d'assigner à résidence un ancien président de la République? C'est une première. Déjà, Yannick Falt, Nicolas Sarkozy va être convoqué, ce sera dans un mois à peu près, chez le juge d'application des peines.
C'est le rendez-vous qui décidera du quotidien de Nicolas Sarkozy une fois le bracelet électronique posé par des agents de l'administration pénitentiaire. La date de mise en place de la mesure d'abord, ses modalités pratiques, surtout le choix du domicile, sauf surprise, l'hôtel particulier de son épouse Carla, Villa Montmorency, dans le 16e arrondissement de Paris, les horaires de sortie, en journée, normalement pour honorer son emploi, ses bureaux d'ancien président rue de Miroménil dans le 8e arrondissement seront-ils considérés comme un lieu de travail, autorisation de sortie potentiellement le week-end aussi, à quelle heure et dans quel périmètre, entre 1 et 10 km, si c'est 1 km, fini le Parc des Princes pour le fidèle spectateur du PSG, le stade étant à 1,4 km de la Villa Montmorency. Quant au déplacement, en France ou à l'étranger, pour une conférence par exemple, là aussi tout dépendra du juge.
Et question importante aussi, c'est l'âge de Nicolas Sarkozy. Il aura 70 ans le mois prochain, donc il pourra demander une libération conditionnelle dès le lendemain de la pose du bracelet. C'est le verdict que tout le monde attend. À 9h30 ce matin, la cour criminelle du Vaucluse va lire leur condamnation aux 51 accusés des viols de Mazan, ces hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pellicot dans son sommeil. Procès retentissant, on vous tend le micro dans quelques minutes, soyez là, c'est à 5h10.
C'est une information France Bleu, des enseignants demandent à quitter Mayotte.
France Bleu a pu consulter un document informel, une initiative indépendante des enseignants. Environ 500 personnels de l'éducation nationale demandent à quitter l'archipel dévasté par le cyclone, au moins temporairement. On écoute justement une enseignante.
Il y a 80% des bâtiments qui n'ont plus de toit. Une partie des bâtiments a été détruite aussi. Le lycée est rempli de débris en fait. Les tables sont détruites, les toits sont tombés, les chaises sont détruites, les ordinateurs ont pris l'eau. C'est méconnaissable. Ça a été un événement extrêmement traumatisant. Et c'est un traumatisme qui n'est pas encore fini parce qu'on n'a pas de nouvelles de nos élèves. On en croise quelques-uns dans les rues, mais on ne sait pas encore si on a des élèves qui sont morts. On imagine qu'on a des élèves qui sont morts, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore combien, on ne sait pas quelle est leur situation. C'est ça qui est aussi très désarmant parce que nous, en tant qu'enseignants, on a quand même une situation qui reste privilégiée par rapport à beaucoup de personnes sur l'île.
Et selon nos informations, pour l'instant, il n'y a pas de rapatriement prévu pour les enseignants. Ils peuvent en revanche être évacués en cas d'urgence sanitaire ou sociale.
Mayotte, où la France déclare l'état de calamité naturelle exceptionnelle.
Toute première fois que ce dispositif en Outre-mer est activé, Emmanuel Macron est attendu sur place dans la matinée. François Bayrou, lui, accélère ses consultations pour former son gouvernement. 14h à Matignon, le Premier ministre reçoit les patrons des forces politiques, sauf le RN et sauf LFI. Du changement sur certaines de vos boîtes de médicaments. 1er octobre 2025, les notices en papier, vous savez, qui ne rentrent plus dans la boîte une fois qu'on les a dépliées, toutes froissées, eh bien, elles seront complétées par des notices numériques. En fait, on pourra les consulter en flashant tout simplement le QR code sur la boîte. L'expérimentation concerne une petite centaine de médicaments en pharmacie, notamment le paracétamol et les vaccins.
À 5h03 sur France Bleu, après l'album des JO, voilà le livre officiel de Paris 2024.
Et il pèse son poids, 3 kilos.
Ah oui.
320 pages de textes et de photos pour vous replonger dans les Jeux Olympiques de cet été. Olympique, mais pas paralympique. Mmh. Guillaume Batin, polémique, le livre ne parle pas du tout des paralympiques.
C'est un bel album blanc aux pages dorées sorti sous la licence officielle Paris 2024 avec les anneaux olympiques sur la couverture, la frige valide dans le sommaire et la préface de Tony Estanguet, page 7, mais qui fait totalement l'impasse sur les Jeux paralympiques. Pas une ligne, pas une photo. La maison d'édition Hugo Sport plaide non coupable. Elle invoque des délais trop courts s'il avait fallu attendre la fin des paralympiques le 11 septembre. Les auteurs ont dû rendre leur copie mi-août. Au grand regret de Stéphane Houdet, champion paralympique de tennis fauteuil.
C'est un immense raté. parce que les Jeux paralympiques ont été aussi un succès économique. On a reçu des tonnes de messages de gens qui ont partagé ces belles images et qui, à mon avis, seraient heureux d'acheter le livre en fin d'année et de les avoir sous le sapin de Noël et puis de les faire perdurer comme celles des Jeux olympiques. J'aurais envie de plaindre les éditions Hugo. Vous passez à côté de la vente de milliers de livres parce que plein de gens voudraient avoir ces belles images pour qu'elles restent plus longtemps.
Dans l'entourage de Paris 2024, on regrette que ce livre ne parle pas du tout des Jeux paralympiques. Et les athlètes que nous avons contactés espèrent qu'un livre uniquement consacré aux Paralympiques sortira bientôt.
Bon, si vous voulez glisser sous le sapin ce livre officiel des JO, il coûte 45 euros. Le PSG l'emporte à Monaco 4-2 en match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Image à retenir, l'énorme balafre sur le visage du gardien parisien Donnarumma. Il a pris en plein sur la joue les crampons d'un attaquant monégasque. 10 agrafes lui ont été posées. Météo Johan, c'est très perturbé et pluvieux sur le nord.
Ouais, ce matin, des pluies accompagnées de vents soutenus balaient la majorité du pays d'ouest en est, à l'exception du pourtour méditerranéen, et c'est encore plus marqué ce matin dans le nord. Cet après-midi, des pluies touchent les régions méditerranéennes, le temps est couvert et pluvieux, et il se maintient des Alpes aux Pyrénées avec de la neige au-dessus de 2000 mètres. Le vent souffle jusqu'à 90 km/h sur les côtes de la Manche. Côté Mercure, à Toulouse et Bastia, nous avons 9 en ce moment, à Saint-Étienne 10, à Strasbourg, Châteauroux et Besançon 11, à Marseille, Caen, Rennes et Nantes 12, 13 à Lille, Paris, Bordeaux et Clermont-Ferrand. Cet après-midi, prévoyez entre 10 et 13 degrés en général, jusqu'à 14 à 17 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen.
France Bleu, ici dès 5 heures. Aude Razo,
Johan Guérin.
Très beau réveil, on est là pour vous accompagner avec l'info, la musique et la bonne humeur. Netflix vient de diffuser les premières images de la série dédiée à Astérix, adaptée du Combat des chefs du Derzo et Goscinny. Et alors tiens, question pour vous, qui est le réalisateur ?
C'est Alain Chabat ?
Mais oui, c'est Alain Chabat, une série en 3D qui débarque au premier semestre 2025. On aura l'occasion de vous en reparler. 5h06, on vous propose pourquoi pas un banquet, tiens, façon gaulois. France Bleu vous offre une carte Tip Tok de 150 euros qui vous permet de vivre une expérience culinaire exceptionnelle dans le restaurant partenaire de votre choix. Du simple bistrot au restaurant étoilé, à vous de choisir. 0810 055 056 pour vous inscrire au tirage. Et côté musique, c'est Christophe Maé pour vous souhaiter un bon réveil ici sur France Bleu.
Je les arde au soleil, je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille que l'amour te réveille, qu'ici tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver, mon cœur s'étonner, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme à cause de ton sein sur ma joue tourne autour de mon âme et je tombe dans le bayou. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud. Comme l'ébène et l'ivoire, viens on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire, je suis tombé sous le charme.
m'abandonner dans l'herbe fine. Ouais, je veux vivre là tranquille, me laisser aller à la cœur pépine. Ouais, je veux vivre là tranquille, la couler douce auprès de toi dans l'herbe fine. Ouais, je veux vivre là tranquille, je serai.
Tomber sous le charme, Christophe Maé, vous aussi, vous allez tomber sous le charme de l'équipe d'ici des 5 heures si vous venez tout juste de vous brancher. On est là pour vous accompagner avec l'info qu'on prend le temps de vous décrypter chaque matin. D'ailleurs, au très attendu ce matin, le verdict du procès des viols de Mazan.
400 journalistes sont attendus et devant la cour criminelle du Vaucluse, il y aura aussi des féministes et beaucoup d'inconnus qui vont se presser.
Procès qui bouleverse notre société, reportage dans 30 secondes.
Bientôt, votre radio change de nom.
Sur France Bleu, on parle d'ici, vous le savez. Et dans quelques semaines, votre radio locale va tout simplement s'appeler Ici. On change la déco, mais pas les fondamentaux. L'actu locale, bien sûr, la bonne humeur, beaucoup, et la proximité. Parce qu'être ici, eh ben, c'est être ensemble.
En 2025, France Bleu devient Ici. France Bleu, ici dès 5 heures.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Ce matin, 9h30, la justice rend son verdict dans le procès des viols de Mazan.
Et derrière l'événement énorme, plusieurs questions se posent. La première, toute simple, quelle peine pour Dominique Pellicot et les 50 hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pellicot, endormie et droguée? La deuxième question, y aura-t-il un avant et un après ce procès sur le consentement, sur la parole des femmes? Comment vous en parlez, vous, entre vous, en famille, entre collègues, entre amis? C'est un reportage France Bleu de Thomas Giraudoux.
Père et fille,
Christophe,
Louison,
n'ont aucun problème à aborder le procès des viols de Mazan. Ils partagent le même constat.
Malgré le nombre de personnes qui sont dedans, là, on se demande comment ça se fait qu'il n'y ait même pas une personne qui réagit. Quoi. Ça serait quand même bien qu'il y ait une volonté, mais humaine, une prise de conscience.
On espère que les mentalités, elles vont changer, elles vont bouger un petit peu, ça c'est sûr. Bah, grâce à la médiatisation de ce procès, justement, ça permet d'en parler de plus en plus.
Oui, mais pas avec n'importe qui.
Je choisis avec qui j'en parle, pour pas entendre des mauvaises choses. Je veux pas me battre.
Céline n'a pas cherché à convaincre certains de ses proches, elle n'en a discuté qu'avec des femmes et des hommes qui partagent sa vision.
Je suis contente de voir que la société peut avancer, que les hommes, enfin, se rallient un petit peu à la cause des femmes.
Comme Céline, Clément a choisi ses interlocuteurs.
J'ai le problème d'avoir des personnes dans ma famille qui ont l'esprit un peu fermé par rapport à ça. Mes grands-parents ou bien des personnes qui sont un peu plus, on va dire, de la vieille école ou qui considèrent que c'est pas très grave, n'auraient pas tendance à dire que c'est de la faute de l'homme. Et je trouve que c'est extrêmement grave en fait, donc je préfère pas en parler pour pas écouter des discours qui peuvent potentiellement, on va dire, m'énerver et faire perdre mon sang-froid, on va dire.
L'étudiant n'en parlera pas en famille au repas de Noël. Il garde ce sujet pour ses amis.
Il y aura un avant et un après Mazan. C'est ce que l'une des représentantes du ministère public a déclaré au procès. Pour vous donner une idée, 400 journalistes sont attendus à Avignon tout à l'heure pour le verdict. Parmi eux, 80 médias étrangers sont accrédités. Impossible de faire entrer tout le monde dans une salle d'audience, donc il y aura 4 salles de retransmission pour suivre tout ça en vidéo. Beaucoup de public attendu aussi devant la cour criminelle. Des militantes féministes ont prévu de se faire entendre à l'arrivée des accusés.
Et d'ailleurs, que risquent les accusés?
Dominique Pellicot, le mari, risque le maximum, 20 ans de réclusion. Pour les 50 autres, il faut s'attendre aussi à des peines très fortes. 18 ans de prison requis contre Romain V, par exemple, qui rejette toute la faute sur le mari, Dominique Pellicot. 17 ans requis contre Dominique D ou encore Mohamed R. Le premier est allé 6 fois à Mazan. Le deuxième, lui, a contesté le viol à plusieurs reprises et parle de guet-apens.
La lecture du verdict va durer un certain temps. Elle commence donc à 9h aujourd'hui. Merci Aude pour ce focus. 5h14 qui dit aussi nouvelle année, dit nouveaux tarifs. À la hausse des prix des mutuelles s'ajoute l'augmentation des tarifs des consultations chez le médecin généraliste. Alors comment économiser sans jouer avec votre santé, c'est important. Les bons conseils de Valère Correa pour vous éclairer. Mais avant, Sheila et Be Devotion avec Spacer sur France Bleu.
We'll be right back. ladies, men. Always greet with a kiss on the hand. Protects us all. At the ready to answer a call. In his own special way.
Mis à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le tube Spacer de Sheila, qui a marqué aussi le début d'une belle histoire d'amour artistique entre la chanteuse et Nile Rodgers, le compositeur de ce titre. 5h17, retrouvons Valère Coréard par ici les économies. Bonjour Valère.
Bonjour Johan, bonjour Aude.
Bonjour.
Chaque jour avec vous, un bon plan pour nous redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on économise
50 euros en choisissant un médecin qui ne pratique pas le dépassement d'honoraires.
Ah oui.
Ah oui, oui, je sais, parfois on est juste content de trouver un médecin et dans ce cas, on ne va pas faire la fine bouche. Mais pour autant, dans certaines villes, il y a plusieurs approches hein, des professionnels de santé. Ceux qui ne font pas de dépassement d'honoraires, ceux qui dépassent mais raisonnablement et puis ceux qui pratiquent des prix libres et qui sont donc chers. Et selon nos moyens, c'est une information très importante parce que tout ce qui sera au-delà du forfait de la sécurité sociale risque de ne pas nous être remboursé. Oh, je suis parti sur 50 euros d'économie sur un rendez-vous, mais enfin parfois c'est beaucoup plus, hein, surtout quand les rendez-vous chez des spécialistes s'enchaînent.
Mais d'ailleurs, Valère, comment faire pour savoir si un médecin pratique ou non des dépassements d'honoraires ?
Alors, il y a l'annuaire santé de l'assurance maladie qui est très pratique. C'est annuairesante.amélie.fr. Vous renseignez votre lieu de résidence, le type de médecin, éventuellement son nom, et vous aurez sa pratique. Ça, c'est extrêmement transparent. D'ailleurs, ce qui est intéressant sur ce site, c'est que vous pouvez retrouver la liste de tous les professionnels de santé d'une spécialité qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires ou qui sont dans la catégorie OPTAM, c'est-à-dire des honoraires avec dépassement maîtrisé. En gros, ils dépassent la base de la sécurité sociale, mais pas trop. Et ils reçoivent d'ailleurs des primes pour ça. Donc, c'est encadré, c'est sérieux. Et bien sûr, pour savoir la politique tarifaire d'un médecin, vous pouvez l'appeler avant pour en savoir plus ou même demander un devis avant de vous engager. Dans certains cas, c'est d'ailleurs obligatoire à partir de 70 euros et les tarifs doivent être affichés dans la salle d'attente. Mais si vous n'êtes pas dans l'urgence, ça peut valoir le coup quand même de comparer.
Et Valère, l'assurance maladie ne rembourse vraiment pas les dépassements d'honoraires?
Non. D'ailleurs, si vous avez une complémentaire santé solidaire, en principe, le médecin ne peut pas facturer de dépassements d'honoraires, sauf dans des cas particuliers. Ça, c'est important à savoir. Mais en effet, la base de remboursement d'un acte au tarif conventionné, c'est 70%. Les 30%, c'est les mutuelles, en fait, qui vont les prendre. Et puis, tout ou partie des dépassements. Mais c'est pas automatique. Ça va vraiment dépendre de la catégorie de mutuelle que vous avez. Donc, renseignez-vous. Et puis, renseignez-nous aussi, parce que vous êtes aussi nos yeux, nos oreilles. Si vous avez des bons plans budget, vous nous écrivez par ici leséconomies@radiofrance.com.
Merci beaucoup, Valère. Demain, nouveau bon plan. Faire vos courses en fin de journée peut être plus économique. Bah oui, pour pourquoi, qu'est-ce qui explique cela? Vous le saurez demain en attendant les bonnes astuces de Valère. Se retrouve sur francebleu.fr. 5h20, Vie d'artiste vous invite dans l'ambiance de Noël. Ça fait plaisir. Revisité par Chico and the Gypsies. Imaginez Vive le vent en version gitane. À la guitare, ça vous tente?
Bah je suis curieuse d'écouter ça.
Eh bah ça donne un tube et une belle histoire qu'on vous raconte dans 3 minutes. Mais avant, complémentaire, c'est la déclaration d'amour signée Amir, ici sur France Bleu.
T'as de la fièvre, je tremble. Devant tes lèvres, il me semble que je fais bien de me taire. Tu fermes les yeux, je me perds. Quand t'as la rage, je suis sanguin. Quand tu voyages, je me sens loin. Dans cette partie de poker, disons que t'es mon joker. C'est donc ça, la fusion de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux, nos échanges. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Chaque fois que je cours, tu t'essouffles. J'appelle au secours et tu souffres. La vie me pique, ça te fait mal. Tu te fatigues, j'en ai marre. Si on t'abîme, je prends le coup. Tu manges un fruit, j'en ai le goût. J'ai froid, t'es la fée d'hiver. Pour réchauffer l'univers. C'est donc ça, l'addition de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux, nos échanges. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux, nos échanges. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Le temps ne sera pas délétère. J'ai hâte de vieillir avec toi. Je te laisserai pas quitter la terre. Je me mettrai entre ciel et toi. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux, nos échangeurs. On pourrait vivre avec un cœur pour deux. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux.
Complémentaire avec Amir à 5h23 pour vous souhaiter un bon réveil sur France Bleu. Vie d'artiste vous livre les grands secrets des chansons que vous aimez et c'est l'ambiance de Noël à la façon gitane qui se découvre ce matin avec Chico and the Gypsies.
Oui, parce que les musiciens viennent de sortir l'album Les chants sacrés de Noël qu'on découvre grâce à vous, Johan, ce matin.
La vie d'artiste.
Mais avant, petit retour en arrière. La carrière de Chico est marquée par des rencontres incroyables. C'est le cas lorsqu'il joue devant Charlie Chaplin en Suisse, dans un restaurant à Lausanne intitulé La Grappe d'Or. Le patron lui dit de passer un soir, jouer quelques morceaux, car Charlie Chaplin a fait une réservation. Le soir, les musiciens reviennent. Charlot, habitué à faire rire, change de visage en écoutant la musique gitane. Charlie Chaplin se met à pleurer. La musique gitane, c'est du soleil, des bonnes vibrations, et ça fait du bien. Autre figure importante, Enrico Macias, qui prend les Gypsy Kings sous son aile en leur offrant la première partie de ses concerts à l'Olympia en 1977. Cela a été un déclic pour Chico, qui s'est mis en tête que la musique gitane plaît et qu'elle peut s'exporter. Musique gitane qui s'accoutume aussi très bien avec la musique de Noël et les chants sacrés. La spiritualité a toujours été dans le cœur de Chico. Il a toujours eu la foi. Les gitans sont des catholiques dévoués et c'est aussi pour ça que Chico et les gypsies sont en pleine tournée aujourd'hui des églises pour connecter les gens grâce à la musique. Des lieux de culte qu'ils connaissent bien d'ailleurs en chantant à l'occasion de mariages ou d'enterrements. Et cette fois-ci donc pour célébrer Noël. Les chants sacrés de Noël, c'est le nom de cet album qui vient de sortir et qu'on vous fait découvrir avec le titre « Vive le vent », totalement revisité, initialement intitulé « One Horse Open Sleigh » lors de sa publication en 1857. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what joy it is to ride in a one-horse open sleigh. Version originelle, ce chant est composé par le pasteur et organiste américain James Lord Pierrepont. La chanson est inspirée des promenades et des courses de traîneaux populaires dans l'état du Massachusetts, fréquentées par Pierrepont pendant toute son enfance. L'air sort à l'occasion de Thanksgiving sans le moindre succès commercial. Pierrepont relance la publication de sa chanson quelques années plus tard, en 1859, avec le nouveau titre, et ce sera Jingle Bells. Alors pourquoi Jingle Bells d'ailleurs ? Il y a une histoire derrière, il y a un sens. Pour se déplacer dans les rues enneigées du Massachusetts dans les années 1850, il faut un cheval et un traîneau donc. Un moyen de transport efficace, mais dangereux, car un traîneau qui glisse sur la neige fait très peu de bruit. Il est donc nécessaire de faire sonner en fait les cloches pour alerter les piétons. Le chant, il vient de là. Il intègre rapidement les répertoires des chorales de Boston pour les fêtes de Noël. Et malgré son contenu non religieux, il devient l'un des standards des fêtes de fin d'année. Vive le vent, version gitane, c'est le titre qu'on écoute maintenant dans Vie d'artiste. Demain, autre titre de Noël à l'honneur, ce sera Feliz Navidad, chanté par Chico and the Gypsies à 5h26 sur France Bleu.
Campana de metal, canzona de la diez, todo suena campana porque yo quiso nacer. No existe bien y mal, he mal se ha vuelto bien. La pena y la alegría van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. La calle o el amor, a prisa por llegar. La gente que viene, que va a dar felicidad. Campana para brindar, luce para Belén y leña para calentar lo que se llaman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. S'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère.
Vive le vent, Chico and the Gypsies, Vie d'artiste, l'émission intégrale à retrouver ce dimanche dès 20h sur France Bleu. Puis j'en profite pour vous dire que Vie d'artiste vous accompagnera aussi chaque soir de la semaine durant les vacances à partir de 19h avec vos musiciens préférés. On vous réserve de très très belles surprises. Jeudi 19 décembre, bon réveil avec France Bleu dans l'info d'ici. Nicolas Sarkozy, condamné à un enferme sous bracelet électronique. Que va-t-il se passer pour l'ex-chef de l'État? Explication dans moins de 2 minutes, mais avant 5h30, toute l'actualité en France et dans le monde, c'est le 90 secondes avec vous, Drazo.
500 personnels environ de l'éducation nationale demandent à quitter Mayotte, au moins temporairement. C'est une information France Bleu, un document informel à l'initiative de plusieurs enseignants que nous avons pu consulter. Mayotte qui attend ce matin l'arrivée sur place d'Emmanuel Macron. La France déclare l'état de calamité naturelle exceptionnelle. La cour criminelle du Vaucluse rend son verdict ce matin dans l'affaire des viols de Mazan. Dominique Pellicot et les 50 autres accusés vont être fixés sur leur peine. François Bayrou reçoit à 14h à Matignon les patrons des forces politiques, sauf le RN et sauf LFI, le Premier ministre toujours à la recherche d'un gouvernement. Nicolas Sarkozy saisit la Cour européenne des droits de l'homme, condamné à 1 an de bracelet électronique dans l'affaire des écoutes. « Je ne suis pas décidé, dit-il, à accepter l'injustice profonde qui m'est faite ». Le match de Coupe d'Europe de basket interrompu plusieurs minutes entre Nanterre et l'équipe israélienne de l'Hapoël Holon. Un spectateur est descendu sur le parquet avec un drapeau palestinien. Tension avec les supporters israéliens. 7 personnes interpellées. Les associations environnementales saluent une victoire de la biodiversité. La méga bassine de Sainte-Soline ne sera pas remplie cet hiver, jugée illégale par la justice, tout comme 3 autres réserves d'irrigation du Poitou. Polémique autour du livre officiel des Jeux Olympiques de Paris. Pas une ligne, pas une photo sur les Paralympiques. Un immense raté selon les athlètes. La maison d'édition Hugo Sport invoque des délais trop courts.
L'info d'ici, on décrypte ensemble la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. C'est historique. Un ancien président de la République va porter un bracelet électronique.
C'est une peine de prison ferme aménagée. Techniquement, ça veut dire que Nicolas Sarkozy va être assigné à résidence pendant 1 an, avec à la cheville effectivement un bracelet électronique.
Il doit le porter dès aujourd'hui, ce bracelet?
Non, alors c'est quand même un processus assez long. D'abord, il y a la convocation chez le juge d'application des peines. Ça doit se faire d'ici 1 mois. C'est là qu'on décide en fait où, à quel endroit Nicolas Sarkozy va être assigné à résidence. Alors, sauf surprise, ce sera la Villa Montmorency. C'est l'hôtel particulier de Carla Bruni à Paris. On décide aussi quand il pourra sortir, quels horaires pour le travail, pour ses loisirs. Et puis, question importante aussi, Nicolas Sarkozy aura 70 ans le mois prochain, donc il pourra demander une libération conditionnelle dès le lendemain de la pose du bracelet.
Nicolas Sarkozy se dit innocent, il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ça change quelque chose, ça?
Non, pas dans l'immédiat, parce que ce n'est pas suspensif. Donc il doit exécuter sa peine en attendant la décision de la Cour européenne. En clair, il n'échappera pas à ce bracelet électronique. Historique, vous le disiez, Johan. Eh bien, écoutons un historien. Son regard, son analyse, c'est Jean Garrigue.
On vient de très loin, il y a encore une trentaine d'années. C'était très compliqué de s'en prendre à tel ou tel acteur politique, notamment au sein du pouvoir exécutif. Moi, je pense qu'il y a encore effectivement du chemin à faire, mais on a quelque chose aujourd'hui qui relève d'une maturité démocratique. En tant qu'historien, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens.
Et pour terminer sur le volet historique, Jacques Chirac, on s'en souvient, avait été condamné à de la prison dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, mais c'était uniquement du sursis, donc la portée symbolique est quand même très différente.
Et Nicolas Sarkozy, lui, risque d'autres condamnations.
Oui, deuxième procès qui arrive très vite, 6 janvier, c'est l'affaire du financement de sa campagne présidentielle de 2007. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, soupçonné d'avoir passé un pacte financier et diplomatique avec l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi. Autre affaire, Big Malion, ça résonne, ça, l'affaire des fausses factures destinées à masquer le dépassement massif du plafond des dépenses de campagne électorale. Là, c'était la présidentielle de 2012. Et là, Nicolas Sarkozy a été condamné déjà en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Et on attend la décision de la Cour de cassation pour l'an prochain.
Tous les matins sur France Bleu, on vous décortique ce qui fait l'actualité. 5h34, la météo ce matin, des pluies accompagnées de vents soutenus balaient la majorité du pays d'ouest en est, à l'exception du pourtour méditerranéen. Dans l'après-midi, des petites pluies touchent les régions méditerranéennes. Le temps couvert et pluvieux se maintient des Alpes aux Pyrénées, avec de la neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Le vent aussi souffle fort, notamment ce matin, jusqu'à 90 km/h sur les côtes de la Manche. Le mercure, nous avons à Toulouse et à Bastia 9 degrés, à Saint-Étienne 10. À Strasbourg, Châteauroux et Besançon 11, 12 à Marseille, Caen, Rennes et Nantes, 13 à Lille, Paris, Bordeaux et Clermont-Ferrand. Cet après-midi prévoyez entre 10 et 13 degrés en général, jusqu'à 14 voire 17 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen.
France Bleu, ici dès 5h. Aude Razzeau,
Johan Guérin.
Excellent réveil avec France Bleu. Tiens, Aude, je suis tombé sur un classement des villes françaises où il y a eu le plus de crushs.
De crushs.
En 2024. Ce sont des rencontres via une célèbre application qui vous permet de croiser les personnes inscrites cette même application pour pas donner le nom. Vous voulez le top 3 ?
Le top 3. Alors, je dirais Paris, numéro 1.
Pas du tout.
Pas du tout, c'est vrai.
C'est assez étrange. Alors, Paris est en 7e position.
7e seulement, ouais. Ah bon ? Non, je sais pas alors.
Alors, 3e position, c'est Narbonne. Mmh. Strasbourg arrive en 2e position. Et la capitale du crush est Annecy.
Annecy.
Annecy, en Haute-Savoie. Voilà, vous savez, pour faire des rencontres, allez à Annecy. Donc, on pense à...
Il y a plein de célibataires,
mais
voilà.
Oui, c'est ça. Non, mais en fait, le cadre contribue à cela. C'est ce qui est dit dans cette petite enquête menée par cette célèbre application de rencontres. On pense à tous les amoureux, évidemment, ce matin. Et pour partager un bon repas avec votre moitié, France Bleu vous offre un joli cadeau. Une carte TikTok de 150 € qui vous permet... de découvrir des restaurants près de chez vous. Ça va du bistrot jusqu'à la table étoilée. 0810 055 056 pour tenter votre chance au tirage. 0810 055 056. Et pour la musique de votre réveil, ça c'est Pinston. Ici, sur France Bleu, bienvenue.
Love and stare. Finally, you come along the way I feel about you. Just get
Ça c'est Pennington avec Finally, c'est sur France Bleu, 5h40, Aude, des escrocs essaient de profiter du cyclone à Mayotte.
Attention aux cagnottes qui circulent sur les réseaux sociaux, rien ne vous dit, mais alors rien ne vous assure du tout que l'argent n'atterrit pas dans la poche d'un escroc.
Explication dans 30 secondes sur France Bleu.
Chaque jour sur France Bleu, Nathalie Elal vous met l'eau à la bouche.
Bonjour, cette semaine on apprend à cuisiner le cresson. On se lance dans la préparation d'un bœuf Wellington. Et je vous dis tout sur l'invention de l'omelette norvégienne.
Le coup de fourchette de Nathalie Elal, tous les jours sur France Bleu ou francebleu.fr. Ici, dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur
sur France Bleu.
C'est pas vrai, tous les matins on déjoue les pièges sur internet. Oh, très clairement c'est sordide. Il y a des fausses cagnottes qui circulent après le cyclone à Mayotte.
Fausses collectes de fonds, faux appels à la solidarité qui jouent sur nos sentiments. Je vous lis, tenez, ce message d'un youtubeur. Pour tous ceux qui me demandent de partager leurs cagnottes pour Mayotte, désolé, je ne le ferai pas. La dernière fois que je l'ai fait, les fonds ont été détournés. Je ne fais plus confiance. Un exemple tout récent, rien à voir avec Mayotte, le meurtre de Victorine, 18 ans, son corps retrouvé dans un ruisseau en Isère. Son meurtrier vient d'être condamné. Dans la foulée du procès, une fausse cagnotte a circulé via la plateforme Litchi, soi-disant pour aider la famille. Le père a porté plainte.
Mais alors comment savoir si la cagnotte est une vraie cagnotte ?
Le moyen le plus sûr, vous êtes vraiment vraiment sûr de ne pas vous faire piéger, c'est de donner à ceux qui ont pignon sur rue. Pour Mayotte, vous avez le choix. Vous avez la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Fondation de France, la Sécurité Civile. Méfiez-vous toujours des petites cagnottes un peu discrètes. Vous ne connaissez pas l'organisateur. Le nom de l'association n'apparaît quasiment pas sur Internet. C'est souvent ces cagnottes-là que les escrocs utilisent pour piquer votre argent. Surtout, surtout, vous refusez les virements bancaires directs sur un compte en banque. Une cagnotte, ça ne marche pas du tout comme ça. Et là, vous avez toutes les chances de vous faire avoir. Pour Mayotte, on a eu le cas aussi de personnes qui essayent de vendre des objets pour récolter des fonds. Là, c'est pareil, méfiance maximale. Ces gens ont peut-être l'air sincères et de bonne foi, mais vous ne les connaissez pas.
Et d'ailleurs, on vous a mis sur francebleu.fr et l'application ici, un article avec les liens vers les vraies cagnottes des associations. Merci pour ces informations précieuses ce matin, Aude.
France Bleu, ici dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Ce matin, nous sommes dans le Nord, à Felampin avec Charles. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bienvenue et bon réveil, merci d'être avec nous ce matin. Quelle a été votre première pensée dès le réveil ?
Sûrement d'aller déjeuner, hein, comme j'avais acheté de la coquille au chocolat.
Qu'est-ce que c'est la coquille ?
C'est une sorte de brioche qui est faite au moment de Noël par les boulangers.
Ah, génial ! Ah, donc c'est une tradition en fait du Nord, c'est ça ?
Je pense que c'est vraiment dans le Nord. Ouais. Je pense que c'est pas dans toutes les régions, mais dans le Nord, c'est bien connu, oui.
Alors, je pense que Charles, vous avez entendu le « ah ouais » d'autres, parce que vous avez déjà goûté, donc.
Oui, j'ai déjà goûté, effectivement. Je suis allée. Alors, je sais pas si c'est une spécialité dans le Nord, mais je pense que oui, effectivement. C'est très bon.
Ah bah voilà, vous voyez. Non, mais c'est vrai que ça donne très... Mais ça ressemble à quoi ? C'est présenté comment, Charles ?
C'est vraiment comme une brioche. Hein, que
ça n'a pas une forme particulière ?
Un petit peu. Mais alors, décrire la forme, c'est compliqué.
Non, ouais, c'est un peu en trois parties, mais bon, ça reste une brioche. Voilà.
Ok, bah voilà. Non, mais, je vous avoue qu'à 5h43, ça nous donne très envie de tester cette fameuse brioche, Charles. Le petit déj, c'est vrai qu'on y est en plus. La journée va commencer après pour vous au travail, c'est ça ?
C'est ça, oui. Là, je suis en route pour aller. Je suis ambulancier.
D'accord. Donc là, vous allez passer la journée sur la route avec votre ambulance, c'est ça ?
C'est ça, et mon collègue.
Eh ben, on vous souhaite bien du courage, on salue le collègue, on salue tous les ambulanciers, évidemment, qui sont avec nous ce matin, Charles. Après le petit-déj, on va vous proposer une façon aussi de profiter de la table et des bons produits, puisqu'on inscrit votre nom sur la liste du tirage de dimanche 2h50 à gagner une carte cadeau TikTok de 150€ pour vous régaler dans de prestigieux restaurants près de chez vous. C'est une journée qui débute bien, Charles.
Ah ouais, très bien, ouais.
Bon, on vous souhaite bien du courage, gardez le sourire et merci de votre fidélité.
Merci, bonne journée.
À bientôt sur France Bleu. 5h44, le réveil est difficile, peut-être vous ouvrez les yeux, tout vous paraît flou. Rassurez-vous, c'est normal, c'est Angèle qui vous le chante sur France Bleu.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite. Même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple. Enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression. Tu te sens comme la reine du monde. Mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. Ça se trouve ça va pas durer. Ou peut-être seulement quelques mois. Voilà je commence déjà à angoisser. Crise après crise j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression. Tu te sens un peu seul au monde. C'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. J'ai peur de perdre la tête en enfer. La suite on verra. Perdre la tête en enfer. J'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou.
Angèle et Flo sur France Bleu. L'édition française du magazine National Géographique fête ses 25 ans. L'occasion de passer un petit coup de fil à sa rédactrice en chef dans deux minutes sur France Bleu.
Ici, dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur
sur France Bleu.
5h48 sur France Bleu, l'actualité qui vous concerne, c'est ici la radio qui parle de vous. On retrouve l'équipe d'ici matin. Que se passe-t-il chez vous aujourd'hui ?
Bonjour Yoann Guérin, soyez là tout à l'heure à partir de 6h dans Ici Matin, puisqu'on aura une nouvelle fois trois chances pour vous de remporter la hotte de Noël en ce 19 décembre. Et puis on va revenir aussi aujourd'hui tout de suite au 19 décembre 1964, un événement à Paris, un discours fleuve, deux grands hommes, un qui entre au Panthéon et un autre qui lui rend hommage.
Oui, en effet, le ministre des Affaires culturelles, André Malraux, rend hommage au résistant Jean Moulin. Et le 19 décembre 1964, sur le parvis du Panthéon, il fait un froid de canard, de la neige et des pluies glaçantes se sont abattues depuis quelques jours sur Paris. Et le discours d'André Malraux n'est pas là pour réchauffer les cœurs. Devant le général de Gaulle, son premier ministre Georges Pompidou et une foule immense, frigorifiée, Malraux prononce un hommage qui restera à tout jamais dans les mémoires.
Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé.
Le Panthéon, monument à la gloire des grands de la nation et de ceux qui ont fait l'histoire de France, 19 décembre 1964, André Malraux, Jean Moulin.
Merci beaucoup Thierry Boeuf, la belle histoire de Paris en replay, en podcast sur francebleu.fr et sur l'application ICI, ICI. Et moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure là, dans les prochaines minutes, à partir de 6h, pour Ici Matin. Soyez là.
On sera au rendez-vous avec toute l'équipe d'Ici Matin tout à l'heure.
France Bleu, ici dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur.
5h49, la une de la presse, l'édition française du National Geographic fête ses 25 ans.
Et ça nous donne de bien belles photos. Oui. À cette occasion, un hors-série sur les plus belles explorations à travers le monde vient de sortir.
Oui, nous sommes avec Marie-Amélie Carpio, rédactrice en chef adjointe. Bonjour et bon anniversaire. Quelle est l'histoire de ce magazine et quelle est votre ambition ?
Bonjour, merci beaucoup. Alors, l'histoire de National Geographic, elle commence il y a 136 ans maintenant, en 1888, avec la fondation d'un magazine à Washington qui voulait, alors l'objectif est simple, il est resté jusqu'à nos jours, faire avancer la connaissance du monde et sensibiliser à sa protection. Et puis, c'est une histoire où la photo est devenue fondamentale en 1905. Alors, un peu par hasard, il manquait quelques pages au magazine avant qu'il soit envoyé chez l'imprimeur, et le rédacteur en chef de l'époque, en catastrophe, a introduit le premier reportage photo du magazine, en l'occurrence sur la ville de Lhasa, au Tibet, qui à l'époque était encore fermée aux Occidentaux. Et voilà, et c'est comme ça que la vocation visuelle du magazine est née. Et puis cette histoire, elle a pris un tour français il y a 25 ans, quand l'édition hexagonale a été lancée en octobre 1999.
Mais c'est vrai que c'est un pur bijou en plus aussi, qu'on découvre à chaque fois avec ces photographies qui sont toujours impressionnantes. Vous avez sorti un hors-série à l'occasion aussi de ces 25 ans, comment est-ce que vous l'avez construit ?
Alors, on a recherché les photos les plus emblématiques, les plus marquantes autour des thématiques chères au magazine. Évidemment, l'exploration géographique, l'humain, la faune sauvage et la science. Et puis, c'était aussi l'occasion de montrer comment donc la photo, qui est vraiment la marque de fabrique de National Geographic, évoluait à l'époque contemporaine.
Vous avez des petits exemples qu'on peut découvrir dans ce hors-série de photos, peut-être vous qui vous ont plus particulièrement marqué, Marie-Amélie ?
L'un d'entre eux va parler à vos auditeurs, il concerne l'Everest, et l'autre, là, à l'inverse, est totalement méconnu, mais c'est une chance. Donc le premier, c'est une photo de Renan Özturk, qui a été prise en 2019, c'est probablement l'une des photos les plus saisissantes de ce hors-série. C'est un panorama de l'Everest pris par un drone qui compose une vue à 360 degrés de la montagne dans son environnement. Alors cette photo, à l'époque, elle était impossible, normalement, à faire, précisément parce que les drones ne volent pas à une altitude aussi extrême, dans des températures aussi glaciales. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'univers de James Bond.
Ouais.
On a un personnage assez magnifique qui est Q. Q qui fournit les gadgets qui permettent au héros d'être ce qu'il est.
Oui.
Alors, on a un peu l'équivalent, alors toute proportion gardée, hein, et puis sans perspective létale, mais on a une équipe d'ingénieurs qui est au service des photographes et dont le but est de résoudre les défis qu'ils leur présentent. Et donc, le photographe Renan Özturk était venu voir les ingénieurs de National Geographic en leur demandant comment faire voler un drone dans ces conditions. Et donc, ça a donné, alors ils ont transformé un drone existant, ne me demandez pas comment, et ça a pu lui permettre, une fois qu'il est allé à 7000 mètres d'altitude, de faire cette photo sans précédent de l'Everest. Alors, il y a aussi une des plus belles réussites de ces ingénieurs, c'est notamment l'adaptation de robots de déminage de l'armée américaine, sur laquelle ils ont monté des appareils photos pour aller faire des images au cœur des meutes de lions et de hyènes dans la savane africaine.
C'est vrai que c'est fascinant, mais d'ailleurs si on a un regard aujourd'hui un peu plus large, on voit que la photo a pris énormément d'importance aujourd'hui dans notre monde, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Vous, c'est une prouesse que vous faites aussi de proposer une belle photo et de la coucher sur papier.
Oui, alors c'est vrai, les photos sont omniprésentes, on est littéralement noyé dans le flot de photos. Je crois que ce qui fait la différence, c'est qu'au-delà de la belle photo, on est sur une photo qui est très contextualisée. Ces photos-là sont issues de reportages en long cours qui font des dizaines et des dizaines de pages et qu'on n'a pas dans le zapping photo des réseaux.
Marie-Amélie Carpio, merci en tout cas d'avoir été avec nous, rédactrice en chef adjointe de l'édition française du National Geographic qui fête ses 25 ans avec un hors-série spécial en kiosque. 5h53, le monde merveilleux du vivant vous surprend chaque matin, c'est le cas ce jeudi, le vautour fauve est encore plus propre qu'un chat.
Le quoi ?
Le vautour fauve.
Qu'est-ce que c'est ?
Explication dans 3 minutes, après les Bee Gees. Les Bee Gees, More Than a Woman. Et on en profite ce matin pour saluer Roland qui est à Gosnay, c'est près de Rennes, qui nous a appelé pour nous passer un sympathique message pour saluer toute l'équipe d'ici des 5h. Donc on vous salue bien fort et ça fait toujours plaisir.
Mais
merci
oui.
Roland. 5h56, c'est le monde merveilleux du vivant qui se découvre avec Benoît Prospero. Ce matin, on déconstruit les idées reçues sur un oiseau que l'on caricature. Bonjour Benoît.
Mon fêteur de drôle d'oiseau, vous. Bonjour Johan, bonjour Aude.
Bonjour.
Ce matin, le monde merveilleux du vivant nous ouvre une porte derrière laquelle se trouve un vautour fauve.
Et la première chose à dire, c'est que le vautour fauve a un cou extraordinaire.
Oula, attendez, vous ne confondez pas avec la girafe.
M'en faites une de girafe, là aussi. Le vautour fauve a un cou long, bizarrement déplumé, puissant et extrêmement mobile, capable de mouvements dans toutes les directions, et ce pour pouvoir introduire sa tête profondément dans une carcasse pour en déchirer les chairs. Et c'est aussi pour cela qu'il n'a qu'un très mince duvet qui ne peut pas s'imbiber de sang ni bloquer sa sortie, c'est bien pensé. Un cou dont, à sa base, s'étoffe une collerette de longues plumes filandreuses qui retient les éclaboussures et les salissures. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Un cou recouvert, alors celui-ci d'une peau bleue, en fait. Oui, parce qu'elle est bleue, la peau du vautour, thermomètre de son humeur. Parce que, comme nous, quand il s'énerve, quand il s'excite un petit peu, cette peau rosie.
Et alors, on en vient à l'idée principale à déconstruire quand on parle du vautour fauve, malgré l'image peu flatteuse que l'on a de cet animal qui se nourrit de cadavres. En réalité, celui-ci est très propre.
Le vautour fauve est encore plus propre qu'un chat. Sa toilette l'occupe une bonne partie de la journée. Avec son bec précis, il pince chaque plume, puis la lisse entre ses mandibules. Il élimine les impuretés et raccorde entre elles les barbules pour augmenter sa portance en vol. Tout est fait pour une bonne raison. Il graisse ensuite son manteau pour renforcer son imperméabilité. Et il a même une glande pour ça, l'uropygienne. Et tous les 3 ans, et ça c'est dingue, le vautour change entièrement de costume. Les plumes, même bien entretenues, ce n'est pas éternel, surtout chez les écarisseurs.
Et alors, autre idée qu'il faut absolument déconstruire quand on parle du vautour fauve, c'est qu'il n'est pas là seulement pour se nourrir de cadavres, mais il est en réalité très utile. Pourquoi ?
Parce qu'il freine la propagation des maladies.
Et comment il fait ?
Pour résister aux maladies des cadavres dont il se nourrit, le vautour fauve a un secret. Une combinaison de sucs gastriques très acides, un transit rapide et une digestion non pas bactériologique, mais chimique. Et très peu d'infections y résistent. De ce fait, il ne propage pas les maladies, mais au contraire, en freine la diffusion. En clair, le vautour fauve est un véritable cul-de-sac épidémiologique. Le monde vivant est merveilleux.
Ouais, pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre Peur Bête.
Ah oui, Peur Bête, c'est signé de la main du formidable docteur en sciences Nicolas Gilsoul, publié aux éditions Fayard. Aude, si Johan était un oiseau, ce serait lequel à votre avis ?
Oh, un petit oiseau, une mésange.
Ah,
oh,
j'aime
une
bien.
Mésange. Et si Aude était un oiseau, Johan ?
Alors un rossignol, pourquoi ? Parce que elle, pendant toutes les chansons, pendant l'émission, elle chante pendant les
c'est
titres.
Vrai.
Sur les titres.
Est-ce qu'elle chante bien ?
On va terminer la chronique.
C'est méchant.
Oui, elle chante bien.
Ah ben voilà, ça va alors.
Pardon, c'est vrai, vous chantez bien. Et dansez aussi.
Je chante un peu faux, mais j'y mets beaucoup de cœur.
C'est vrai. En tout cas, elle chante bien aussi. C'est l'équipe d'ici matin qui nous rejoint en studio. Bonjour.
France Bleu Paris, ici matin.
Grégoire Godefroy.
Bonjour Grégoire.
Bonjour Yoann Guérin.
Je sais que vous chantez bien.
Bon, petit brin de voix.
Ouais.
Pas du tout.
En mode crooner, vous étiez en mode crooner. Oh, vous savez.
Oh, vous savez, c'est un métier. Merci Yoann Guérin. On se retrouve demain à partir de 5h. Bienvenue sur France Bleu Paris.